Un candidat à la présidentielle fait élaborer son programme par contribution en ligne. Des Français sont invités à contribuer à l'élaboration d'une loi sur le numérique. Une vidéo interactive explique que si l'on va jouer aux jeux vidéo chez Mehdi, on risque de basculer dans la radicalisation. Toujours le choix.fr, il y a quelques jours. On discute prix du pain au chocolat et double ration de frites sur Facebook. Elle signe, en ligne, une pétition contre la fermeture d'une église qui protège les animaux, Sainte Rita. Une vidéo sur YouTube dénonce le projet de construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, et il n'y en a pas qu'une, évidemment. Une série de dessins numériques explique la logique du consentement. Quand c'est non, c'est non. Le numérique apparemment capte donc et condense l'expression, oriente la pensée. Peut-être est-il le support d'une citoyenneté numérique pour certains. Cette table ronde se propose d'interroger précisément les enjeux numériques dans la vie citoyenne. Pour ce faire, 4 intervenants nous ont rejoints. Madame Sophie Vulliet-Tavernier, il y a une petite faute sur son nom dans le programme, le « i » n'est pas à la bonne place, nous vous prions de nous en excuser, et elle également. Madame Sophie Vulliet-Tavernier est directrice des relations avec les publics et la recherche à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Monsieur Christophe Bénavent est professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, directeur de l'école doctorale Économie et Organisation Société, directeur scientifique au pôle digital de l'Observatoire Société et Consommation, l'OBSOCO, qui est une société de conseil. Et il est l'auteur notamment de plateformes, sites collaboratifs, réseaux sociaux et marketplace, comment elles influencent nos choix, publié chez FIP en 2016. Franck Cormeret est professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, responsable de l'équipe E3D, études digitales des données aux dispositifs, du laboratoire MICA à Bordeaux. Il dirige la jeune revue Études digitales. Il a co-dirigé la série d'ouvrages poétiques du numérique et il est l'auteur notamment de La société éclatée, le retour de l'objet local avec Pierre Musso. André Vitalis, enfin, est docteur d'État en sciences politiques et professeur émérite en sciences de l'information et de la communication de l'Université Bordeaux-Montaigne également. Il est l'auteur notamment de Le profilage des populations, du livret ouvrier au cybercontrôle en 2014 avec Armand Matelard et de L'incertaine révolution numérique paru en 2016. Il est spécialiste notamment des questions de surveillance. Et il m'a indiqué hier soir avoir googlé mon nom pour m'identifier. Je suis, et il s'est trompé, puisque j'étais devenu un musicologue belge, qui est mon président d'université, qui a initié une politique d'humanité digitale à l'université de Tours, mais qui n'est pas moi-même, parce que je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université François Rabelais de Tours, où je dirige l'équipe PRIME, Pratiques et ressources de l'information et des médiations, qui travaille notamment sur le numérique. Alors, le numérique, c'est de prime abord la possibilité d'un élargissement, semble-t-il, de l'espace public d'expression et de mobilisation. Comment le citoyen prend-il part à ces débats ? Est-ce avant tout dans un espace de connivence ou de conflictualité. Franck, comment voyez-vous cette question de l'expression ?
Merci. Moi, je suis un peu surpris par la question du comment, parce que la question du comment, elle suppose qu'on se mette d'accord sur quelques mots, en fait. Et ces mots, il y a des mots lourds qui ont été prononcés, le mot comme consentement, par exemple, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, des mots comme, comment dire, usage, comment dire, opportunité, adaptation, etc., production, etc. Moi, je pense que l'idée, c'est qu'on... Aujourd'hui, et le gros mot, en fait, le mot de tous les mots, c'est le mot critique. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut commencer un peu sérieusement, c'est l'idée de se poser la question du nouvel âge de la critique. Évidemment, il y a eu une critique qui était la critique, comment dire, copernicienne, qui a permis à la révolution kantienne de se développer. Je ne vais pas faire trop de philosophie, mais grosso modo, ça met en place le programme de base de l'autonomie du citoyen. Il est clair qu'aujourd'hui, ce programme de base, en fait, il doit être révisé à l'aune, en fait, de la technologie. En fait, il y a une technocritique à faire, et ça, ça me semble très, très important. De quoi parlons-nous quand on parle de citoyenneté? Évidemment, on doit se référer au modèle historique de la Rome antique. Évidemment, ça a été dit. Il y a des mots lourds qui ont été lancés, délégation, participation, la métexis, le prendre part, des choses qui sont très, très importantes. Mais si on n'a pas comme idée qu'il s'agit d'une révision, non simplement du logiciel, mais en fait des finalités, c'est-à-dire du telos, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans le comment, on est dans le pourquoi. Et que si on commence en fait à se focaliser dans uniquement la question du comment, et qu'il faudra bien sûr traiter, mais sans passer préalablement par la question du pourquoi, je pense qu'on rate un peu l'affaire. Donc la question, pour répondre à la question, eh bien évidemment aujourd'hui, parce qu'il y a une question qui m'a été posée, c'est l'idée de travailler sur une série d'oppositions. Il me semble que, et surtout à partir de ces oppositions, d'avoir une dynamique de création. Il me semble que par rapport au mot adaptation, on est dans un âge de l'invention. Nous avons à réinventer une nouvelle renaissance. Nous avons à sortir des schémas anciens. Il est clair que là, on ne pourra pas, d'une certaine manière, se contenter, d'un discours, qui est celui d'un monde finissant. Il s'agit, en fait, de revitaliser les figures essentielles. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le citoyen, pour terminer sur une note positive, il a besoin d'un double. Il a besoin d'un double parce que historiquement, le citoyen, c'est le 18e siècle, il se reconstruit, et au 19e, 20e siècle, et ça monte, on a son double négatif, c'est le consommateur. On y reviendra. Et aujourd'hui, évidemment, les temps de sollicitation du consommateur par rapport au temps d'usage du citoyen dans chaque sujet personnel, eh bien, il y a une asymétrie et il y a un rééquilibrage à faire. Il me semble d'une certaine façon qu'il nous faudrait un double positif du citoyen, et moi j'appellerais ça le contributeur. L'idée d'une logique de la contribution, c'est un personnage important. Le contributeur, parce qu'on a été dit, ça a été dit tout à l'heure, c'est un producteur. C'est pas simplement en fait un homme passif, c'est un homme actif et passif. Le producteur, ce contributeur, en fait, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, doit être aidé dans sa logique de contribution et dans son éducation à la contribution. Il me semble que là, on a un schéma à développer, un double positif du citoyen à travers en fait une réinvention de la citoyenneté autour de la contribution.
André, cette contribution du citoyen, vous l'avez étudiée notamment autour de l'affaire Erika.
De Erika, voilà. Alors d'abord, je voudrais dire que le numérique, on avait cru au départ que ça allait permettre de rénover la démocratie. Et il y a eu beaucoup d'expériences et en général, beaucoup de désillusions. Il faut commencer par ça. C'est-à-dire que la participation politique, elle n'est pas évidente. Si les citoyens ne veulent pas participer, et s'ils ne veulent pas participer, ce n'est pas le numérique qui le fera, et il les fera participer. Voilà. Et alors, le style de participation, justement, il est plus contestataire que constructif. Exemple simple, la pêche en eau profonde, par exemple. La Commission européenne avait mis en place un site pour s'interroger sur cette question. Il y a eu très peu de débats. Alors qu'une blogueuse avait fait un site, il y a eu des milliers de personnes qui se... Donc, l'important, c'est de voir que le numérique, c'est plutôt, en termes de citoyenneté, un outil de contestation plutôt qu'un outil de construction ou au service des pouvoirs en place. Voilà. Donc, là, j'ai une magnifique étude que j'ai menée sur l'affaire de l'Erika. Vous savez, c'est la marée noire, ça a duré 6 mois. Alors à ce moment-là, j'avais un contrat du ministère de l'écologie, on a analysé des milliers de pages. Et qu'est-ce qu'on a ? Il y avait 6 millions d'internautes à l'époque, et venait de naître la nouvelle formule d'interactivité, où on pouvait produire des messages. Alors là, on a vu 4 catégories d'usage. Deux citoyens, c'est-à-dire il y a des experts qui ont contesté ce que disait le gouvernement ou les experts du gouvernement en disant que le fuel était cancérigène alors que ça n'avait pas été dit avant. Et d'autre part, il y a eu organisation d'un espace public un peu sauvage Et par exemple, le gouvernement disait, enfin du moins les experts gouvernementaux, que ce n'était pas possible de prévoir où allait se dérouler la marée noire sur 400 km de côte. Et là, des internautes, géographes, gens sur les côtes, etc., ils ont, eux, dressé la carte qui s'est révélée exacte. Donc, moralité, un nouveau acteur informationnel apparaît grâce à Internet, qui n'est pas journaliste, qui n'est pas les experts gouvernementaux. Et donc, c'est ça, à mon avis, la grande novation en termes démocratiques, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde dans une démocratie a une capacité d'expression égale, a priori, égale. J'ai autant le droit, n'importe qui peut parler. Et là, cette capacité avait été un peu confisquée par les journalistes ou par les gens représentatifs. Et là, il y a donc ce rappel qu'effectivement, en quelque sorte, je peux prendre la parole. Et je peux prendre la parole quand je suis en colère, etc. Donc voilà, là, pour, évidemment, c'est, je fais référence à ça parce qu'effectivement, on l'a beaucoup étudié. Alors depuis, c'est passé pas mal de choses. Mais je crois qu'il faut avoir l'idée. Rénovation démocratique, pas du tout pour le moment. Internet n'a pas tellement aidé à ça. Par contre, Internet a aidé des associations, a aidé des mouvements protestataires. Voilà, en gros, ce que...
Bien sûr. Tout le monde peut contribuer à ces plateformes. Ceci dit, est-ce que tout le monde a les mêmes capacités langagières, de conceptualisation ? C'est pas tout à fait certain. Enfin, on y reviendra en fin de cette table ronde. Et est-ce que tout le monde a cette capacité de discrimination de l'information ? Ou autrement dit, comment le citoyen peut-il faire face au risque de manipulation de l'information ? André ?
Alors, la vaste question, hein, vaste question. Comment faire face à la manipulation de l'information ? On est dans un monde de représentation complètement effrayant parce qu'on est manipulé constamment. Excusez-moi de faire une expérience personnelle, j'avais un rhume, je m'apprêtais à aller à la pharmacie, je vois Que Choisir qui fait une enquête sur les médicaments du rhume. Or, savez-vous, je lis cette enquête qui est faite sérieusement, il y a un professeur de médecine qui pilote l'affaire, les trois quarts des médicaments sont inutiles et parfois dangereux. Donc, en gros, l'article dit, une grippe, avec médicaments, ça dure une semaine, une grippe sans médicaments, ça dure 7 jours.
Donc, Que Choisir nous manipule ?
Non, parce que apparemment il y avait quand même, a priori, je fais plus confiance à Que Choisir, surtout qu'il y avait quand même un professeur de médecine qui apportait son visa. Voilà. Donc, on est dans un monde de manipulation constante. Alors, avec les dernières évolutions politiques, qui sont, comme vous le voyez, incroyables, quoi, hein, eh bien, on nous dit on est dans un monde de non-vérité. Baudrillard parlait de simulation, etc. Donc, si vous voulez, là, on est dans un... Enfin, là, je veux dire, par là, on est dans une époque où on ne s'imaginait pas ce qui est en train de se produire, on ne s'imaginait pas ça. Et donc, la manipulation, pour moi, c'est un phénomène... Jamais on a été... Moi, j'ai un maître à Bordeaux qui s'appelait Ellul, il a fait un bouquin qui s'appelait Propagande. Jamais on a été propagandé comme on l'est aujourd'hui. Jamais. Et parfois, peut-être, avec notre participation.
Nous serions, selon certains, dans une ère de post-vérité ou d'au-delà de la vérité. Sophie, comment la CNIL se positionne par rapport à ces questions ?
Oui, donc, sous l'angle données personnelles, donc utilisation des données des individus, je crois que le premier constat à faire, c'est qu'effectivement, on est dans une situation de déséquilibre actuel. Il est certain que l'individu, de façon générale, sauf, je dirais, le monde des geeks, etc., on est dans une situation de déséquilibre où l'individu est face effectivement à des mondes numériques qu'il ne maîtrise pas totalement et qu'il ne connaît pas véritablement. Alors comment faire face à ce déséquilibre ? Je crois que il y a plusieurs aspects sous l'angle éducation au numérique, parce que ça a été abordé à juste titre tout à l'heure dans le cadre du discours du recteur Roland. Il y a effectivement l'éducation des jeunes, mais je crois qu'il ne faut pas non plus focaliser uniquement sur les jeunes. Je crois qu'il y a un déficit de connaissance du monde de numérique, de l'univers numérique, de la façon dont les modèles économiques et modèles d'affaires du numérique fonctionnent aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement de quelle façon les données, notamment les données personnelles, sont utilisées pour effectivement formater des comportements, formater des modalités d'usage des données. Donc ça, je crois que c'est un aspect vraiment essentiel et qui fait partie, me semble-t-il, de l'éducation au numérique qui devrait être acquise par chacun. Alors comment le faire ? Je crois qu'on y reviendra au cours de cette journée. C'est une vraie question. Comment montrer, notamment aux jeunes, mais pas seulement, de quelle façon vos données personnelles sont utilisées, formatées, pour vous proposer des services qui sont de plus en plus personnalisés. On parlera, je pense, tu parleras peut-être du monde des filtres, des bubbles, filter bubbles, c'est-à-dire la façon dont notamment, par exemple, Amazon vous propose des choix de lecture en fonction de ce que vous avez acheté précédemment. Et ça, ça veut bien dire qu'on vous manipule à la fois dans les informations, dans les services qu'on vous propose et dans l'utilisation de vos opinions aussi telles qu'elles sont analysées via les données personnelles. Et le deuxième aspect, c'est aussi peut-être imposer aux plateformes et aux responsables de plateformes finalement un certain nombre d'obligations. Et à cet égard, la loi pour la République numérique, là, qui vient d'être adoptée, introduit des dispositions qui me semblent assez intéressantes sur la transparence des algorithmes, qui obligent à une certaine transparence, notamment de la part des acteurs du numérique. Alors, restera à voir comment concrètement cette transparence des algorithmes peut être mise en place, mais je trouve que c'est une voie tout à fait intéressante qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de dispositions qui existent déjà dans notre loi informatique et liberté, le droit pour chacun de connaître et de contester les raisonnements utilisés dans les décisions qui vous sont opposées. Donc ce droit à la connaissance donc des raisonnements utilisés, ça me semble quelque chose qui demande à être revivifié à l'ère du tout numérique, sans parler de l'aspect comment permettre à l'individu donc de mieux maîtriser ses droits entre guillemets informatique et liberté.
Bien sûr. Si l'individu est seul, ou le citoyen peut être seul face à ces dispositifs, est-ce que les collectifs, notamment ceux proposés par le numérique, peuvent constituer des espaces de co-apprentissage ou d'apprentissage ? Ou bien les réseaux sociaux sont-ils avant tout individualistes ? Enfin, est-ce qu'ils permettent aux citoyens des apprentissages collectifs ou non ? Et s'ils le font, est-ce que c'est en créant une bulle cognitive ou algorithmique, ou pas nécessairement, Christophe ?
Vaste question. Bon, moi j'ai d'abord une petite note sur la tonalité. Je suis assez étonné du caractère sombre et noir de la présentation du numérique. Alors, au sein d'une université, c'est quand même assez inquiétant, parce que déjà dire le numérique semble procéder de la pensée magique. Il n'y a pas le numérique, ça n'existe pas. Il y a au moins déjà trois numériques, trois ordres numériques. Il y a un ordre, on va dire, de celui de la Silicon Valley avec ses règles. On est dans un univers politique et juridique, donc un univers, celui du cloud pour l'instant, qui est dominant, qui permet de rapprocher des données. Il y a un univers extrêmement inquiétant qui se dessine en Chine avec aujourd'hui des initiatives d'un crédit social, c'est-à-dire un Facebook où on aurait, chaque citoyen serait noté, etc., donc qui en voie de constitution et animé par une entreprise notamment qui est Alibaba. Il y a un troisième univers numérique qui est celui de l'Europe, où les juristes, en particulier les CNIL de chacun des pays, ont été actifs et dessinent un autre espace. Donc c'est trois espaces qui me semblent relativement distincts, qui font penser différemment. Il y a des numériques qui sont des alternatives, c'est celui que je peux retrouver dans des think tanks comme la FING, où on cherche à construire des modèles distribués avec leurs entrepreneurs, un Christian Nito, etc. Donc je pense qu'il faut être assez prudent sur une qualification, une catégorie générale qui s'impose. Si on a un niveau un peu plus micro, c'est la question que tu poses, celle des réseaux sociaux. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux. Et quand on s'intéresse aux réseaux sociaux, il faut moins regarder le côté réseau que les règles qui régissent les fonctionnements à l'intérieur du réseau. Et effectivement, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on peut les considérer, je dirais, comme aussi d'abord des producteurs de droits. d'un certain nombre de règles de fonctionnement. Celles de Facebook ne sont pas celles de LinkedIn, ne seront pas celles de Snapchat. Les objectifs qui sont visés par ces entreprises qui appartiennent au premier monde ne sont pas tout à fait les mêmes. L'encouragement à la socialité n'est pas du tout le même. Dans LinkedIn, elle est relativement inhibée. Dans Facebook, elle est exacerbée. Chacun d'eux produit des effets qui leur sont propres. Voilà. Maintenant, sur un plan, je dirais, un peu plus empirique, celui de l'observation, à mon avis, c'est celui qu'on doit avoir, pas celui du jugement moral qui s'établit depuis ce matin, sur des catégories, je vous dis encore une fois, magiques. Ça ne relève pas de l'esprit scientifique. L'esprit scientifique doit s'attacher quand même, au minimum, aux faits, observer et essayer d'expliquer les phénomènes qui se produisent, et c'est quelque chose qui est relativement complexe. Si on prend le cas de la polémique autour de Trump, je dirais le premier raisonnement à avoir, c'est de proposer des hypothèses. Il y a trois hypothèses qu'on peut avoir face à cette hypothèse générale de filtering bubble, hein, de bulle de filtrage. Première hypothèse, c'est la faute à l'algo. C'est celle qui est évoquée. Les effets d'amplification. Il y a de bonnes chances que sur Facebook ça fonctionne. Il y a peu de chances que sur un LinkedIn ça fonctionne. Pour des questions techniques, de types d'algorithmes qui renforcent des opinions et qui réexposent. On pourrait être simplement humain, on a parlé d'humain, et revenir quand même à une vision un peu plus contemporaine de l'humain qui commence à se développer, notamment avec les gens de l'économie expérimentale. Nous sommes bourrés de biais cognitifs. Moi, j'ai plutôt tendance à parler de les biais sont si nombreux, hein, je crois près de 200 qui sont recensés aujourd'hui, qu'il vaudrait mieux parler d'adaptation cognitive. Ce serait quand même plus anthropologique. Et l'un d'eux est effectivement le biais de confirmation. Donc ce qui se produit aujourd'hui sur Facebook, première hypothèse, c'est quand même d'abord la faute aux humains. C'est-à-dire nous sommes faits de telle manière à ne percevoir et ne retenir que les choses qui nous confirment dans nos opinions. Peut s'ajouter dessus une autre responsabilité, une autre faute, la faute au réseau lui-même, la structure de ces réseaux. On connaît depuis Barabasi leur fonctionnement. On sait que dans leur croissance, ils répondent à une loi d'attachement préférentiel qui conduit effectivement à ce qu'on découvre maintenant, qu'ils sont extrêmement inégaux, en tout cas ceux pour lesquels l'encouragement à la connectivité s'exprime fortement. Est-ce que c'est le cas tous, c'est fait à des degrés divers. Donc, faute à la psycho, faute à l'algo, et enfin, faute naturellement, faute au réseau, et faute à l'algo, les effets de renforcement. Donc moi, je veux être relativement prudent, je veux savoir quelle est la part de ces trois facteurs dans la constitution de certains phénomènes. Donc avant de juger moralement, il me faudrait au moins un bilan. Alors il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement, hein, c'est quand même assez prolifique. Les hypothèses autour de la polarisation, lorsqu'on fait un petit bilan en matière politique, c'est extrêmement controversé. Donc avant d'avoir la condamnation, il faudrait au moins avoir l'instruction du procès. Voilà un petit peu mon point de vue, voilà, qui est à la fois très optimiste. Nous sommes, et là je suis d'accord, dans une période d'invention. Il faut être extrêmement joyeux et positif. Il faut avoir une attitude, je dirais, d'hospitalité face à un certain nombre de technologies. L'hospitalité, c'est bien le moyen de tester l'étranger. Et l'étranger, c'est la technologie. Et de voir si on peut vivre avec lui ou non.
Moi, j'ai quand même un très fort désaccord avec ce qui a été dit au départ sur les trois, mondes d'Internet. Mon voisin a l'air d'oublier, par exemple, ce que nous a révélé Snowden. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui passe le numérique, c'est la déterritorialisation qui font que des multinationales n'ont pas appliqué les règles européennes, et ces multinationales qui dominent le net sont américaines, comme vous le savez, et donc violent constamment, nous exproprient de nos données, constamment, et naturellement, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Internet, c'est-à-dire on a une telle, facilité qu'on accepte ça, mais on veut oublier le reste, mais le reste existe. Et donc, en gros, le modèle économique de ces entreprises, c'est quand même d'élaborer des profits sur nous qu'elles exportent. Et les Européens, justement, on a parlé au Sénat, vous voyez, parce que ce n'est pas un jugement moral, c'est de la constatation la plus scientifique possible. au Sénat, par exemple, on a parlé de colonisation numérique. C'est-à-dire que l'Europe, sur le numérique, est très très mal partie, très très mal partie. Et que l'effet de réseau fait que quand vous avez un monopole sur Internet, il est très difficile de revenir sur ce monopole. On le voit avec Google, on fait comme si Facebook devait être la médiation universelle. Mais pas du tout. À mon avis, là, dès le départ, on n'a pas identifié, et ça n'a rien d'un jugement moral, ça n'a rien de quelque chose de subjectif, c'est une constatation la plus scientifique possible. Et je pense qu'on est très nombreux à le faire. Et justement, les CNIL, enfin, européennes, ont le plus grand mal à justement se faire entendre de ces colosses américains qui, à mon avis, les écartent. Pour moi, enfin oui, bien sûr, mais enfin, vu avec un petit recul, enfin bon, peu importe, voilà ce que je voulais dire, mais ça n'a rien de jugement moral, c'est pour moi, on n'est pas dans la même réalité.
On reprend après. Voilà. Retour du négatif ou au négatif, donc. Franck, est-ce que le numérique offre des les numériques, pardon, offrent des possibilités d'apprentissage collectif aux citoyens ? Ou est-ce qu'on est dans un processus d'individualisation ?
En fait, c'est d'éviter les disjonctions au départ, quoi. Mm-hmm. Il faut reproblématiser, comme ça a été dit ce matin. L'idée de l'invention. Et si on dit que le problème, c'est de réajuster une nouvelle critique, au sens, en fait, pas d'être critique négatif, mais des conditions de possibilité de ce qui nous arrive, hein, c'est-à-dire, en fait, l'idéal kantien qui anime les droits de l'homme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, grosso modo, la question qui va être abordée ce soir, je crois, c'est la question des littératies et de la numératie, c'est-à-dire, en fait, d'une troisième culture. Aujourd'hui, il y a deux cultures. Il y a une culture des sciences, de l'humanisme qui se développe à travers les sciences humaines et sociales. Et puis, de l'autre côté, on a une culture scientifique qui est une culture, en fait, disons, dure, entre guillemets, si on reprend des métaphores. La question, c'est l'invention d'une troisième culture et d'un humanisme digital. Moi, je pense que le côté, d'ailleurs, les mots ont une valeur importante. Je préfère le mot digital au mot numérique. Le mot digital, de toute façon, réintroduit, en fait, le digit et l'index et l'indexation. Il y a toute une histoire, en fait, de l'indexation et du doigt. Et c'est par la main, si on a un peu lu Le Roi Gourand, en fait, que le processus de dominisation se développe. Donc, l'idée, déjà, d'emblée, de quoi parlons-nous, quoi. Et si on commence à utiliser des catégories d'un flou artistique qui fait que, d'une certaine manière, moi, je parlerais de servitude involontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de paradoxe dans l'utilisation des réseaux sociaux où, en fait, il y a une extorsion du consentement. Ça a été dit tout à l'heure. Quand on rentre, en fait, dans une juridiction qui n'est pas européenne et qui conditionne notre accès au réseau, et on peut se poser la question, évidemment, des frontières et des limites et du fait que le politique est là à sa responsabilité en la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, au niveau français, au niveau européen, de politique, de développement des infrastructures et des réseaux et des services. Et là, d'une certaine façon, il faudra y revenir sur cette question de production de contenu. Donc nous avons, et sans être dans un rapport défensif, nous avons à inventer, évidemment, un European Way of Life du digital qui ne sera pas, en fait, cette américanisation à outrance, en fait, qu'on nous sert tous les jours. Et quand, moi, un de mes étudiants m'a dit, il y a fort longtemps, qu'il avait fait basculer, la région au Pays de la Loire sur Facebook, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait ? Il me dit, ben non. Et je lui ai dit, mais qui te l'a demandé ? Eh bien, en fait, le président de région. Et je lui ai dit, mais tu as demandé au président de région pourquoi il l'a fait ? Eh bien là, en fait, il y a à s'interroger sur le désir mimétique. C'est pourquoi vous faites quelque chose tout simplement parce que les autres le font ? Et là, il y a quand même des interrogations majeures à avoir, et que il y a une politique européenne à créer de production de contenu, de production, il y a, quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'y a pas de frontières sur Internet. Il y a des frontières, évidemment qu'il y a des frontières, désolé de contredire, et que ces frontières, il faut les réguler, et que si on ne les dérégule pas, évidemment, on est dans une situation difficile, et cette situation difficile, qui est probablement celle de cette, cette figure de la boétie, cette figure de la servitude involontaire, eh bien, il faut y remédier. Merci.
entre Laboissy et Milad Douaili, donc pour l'humanisme numérique. Le citoyen numérique, c'est aussi un consommateur profilé, parfois doté d'aptitudes numériques, qui compare les prix, qui achète en vente flash ou récemment en Black Friday. Comment les deux s'articulent-ils, le consommateur et le citoyen face au numérique au pluriel ?
C'est le souci, ils ne s'articulent pas du tout. Et puis le citoyen, le consommateur, et vous oubliez quand même l'essentiel, le travailleur. Voilà, ça ce sont des figures, ce sont des rôles sociaux qu'on remplit. Effectivement, il y a un certain nombre de sollicitations. Aujourd'hui, on revient à la question politique des plateformes qui organisent et qui structurent différentes formes du numérique. Eh bien, effectivement, la priorité, l'argent est donné à ceux qui favorisent la consommation de manière absolument évidente. Bon, tout à l'heure, j'aurais pu développer sur le rôle des algorithmes.
Contre ce qui était un peu un projet initial d'Internet. Ben,
pensez à
web,
Wikipédia, simplement. Voilà, une autre façon de réguler, d'organiser. Wikipédia, avec ses faiblesses, c'est-à-dire depuis 2009, une baisse progressive et continue de la participation, avec ses éléments positifs, une prise de conscience très forte et qui s'est fait très tôt sur la nécessité de réguler à l'intérieur et d'avoir des politiques de modération évoluées qui commencent seulement à apparaître dans des réseaux comme Twitter et Facebook et qui sont, là on sera d'accord, totalement oublié, abandonné, et par l'université, et par les politiques. Très très peu de réflexion là-dessus. Alors que ce sont les plateformes elles-mêmes qui réalisent. Quand il y a 2 ans, Airbnb est mis en cause par des chercheurs new-yorkais sur les effets pervers de l'affichage de la photographie qui conduit à amplifier les phénomènes de ségrégation raciale à New York, se traduisant par un écart de 20% de prix dans les chambres selon la couleur de peau qu'on affiche sur une photo. Aujourd'hui, depuis le 1er novembre, c'est Airbnb qui met en place une politique d'engagement et de lutte contre les discriminations qu'on pourra critiquer parce qu'elle est insuffisante, mais qui sont dans une logique d'autorégulation. Mon point de vue est assez clair. Les plateformes sont des puissances politiques. Elles agissent comme les États. On peut les analyser comme les États, avec leur propre gouvernementalité qui est propagée par les algorithmes. C'est un peu la thèse du bouquin. Donc il n'y a aucun problème. Ce qui est désolant, c'est la manière dont les États ont abandonné en grande partie cette question politique aux plateformes. Maintenant, il y a une question sociale qui se pose. C'est comment peut-on vivre dans une disjonction de rôles ? Comment, à un moment donné, et ce n'est pas lié forcément au numérique, c'est peut-être une question sociale beaucoup plus importante, comment dans l'isoloir on va essayer de prendre une décision pour ce qu'on croit être le bien commun, et 10 minutes après, au supermarché, avoir des décisions qui vont contredire complètement ce que l'on a pu faire. Sans compter qu'un quart d'heure après, on ira au travail et peut-être qu'on manifestera contre la loi El Khomri. Donc, moi, je suis un peu épaté par ces contradictions qui sont là, qui posent des questions d'ordre psychologique, sociologique. Il y a sans doute, et alors là, moi, je partage effectivement une réinvention du sujet et d'un sujet qui soit peut-être un peu moins éclaté. C'est l'héritage des modernités. Nous n'en sommes pas encore à une post-modernité.
Donc, il faudrait plus de cohérence pour l'humain. Franck, comment tu vois cette articulation Sophie, vous voulez intervenir ?
C'était juste pour répondre à tes deux observations.
Une solution pour la cohérence de l'humain ?
Non, mais d'une part, par rapport au paradoxe, je crois que la question de l'éducation était vraiment essentielle, justement, pour faire connaître ces modèles d'affaires, ces questions d'utilisation des usages du numérique. Je crois que c'est vraiment essentiel. Deuxième aspect, par rapport aux politiques et par rapport à cette suprématie des plateformes, je crois qu'il ne faut pas quand même partir battu, et je crois que je parle là du droit. Quand on voit quand même que, il y a quand même eu des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont imposé, qui ont rappelé que Google, comme Facebook, etc., devait appliquer le droit européen, et ces arrêts sont intervenus notamment sur la base de recours d'individus, je pense notamment à Max Schrems. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas partir battu. là-dessus. Et le droit est essentiel dans ce domaine. Et je crois que le modèle européen de protection des données, faudrait vraiment sur le respect des droits fondamentaux, de considérer que les données personnelles, ce ne sont pas des données à marchandiser n'importe comment, et ça repose vraiment sur le respect des droits qu'on défend, nous, en Europe, c'est vraiment essentiel. Donc je crois que le politique, c'est vrai qu'il est en retard d'un chemin, que sur des services, on parlait hier de moteur de recherche français Qant, qui, je dirais, est vraiment conforme, point de vue protection des données, etc., et qui, malheureusement, n'est pas promu assez dans le monde de l'éducation nationale et de l'enseignement, alors que, pareil, d'ailleurs, on sait bien que Google, comme Apple, comme Microsoft pénètrent largement le monde de l'enseignement et de l'éducation. Ben c'est vrai qu'il y a un déficit là, de la part du politique. Alors, je crois que c'est notre rôle à tous que d'essayer, d'une part, d'éduquer les citoyens en puissance, les jeunes, sur la réalité, encore une fois, du monde numérique. C'est aussi notre rôle, et je parle aussi au monde de la recherche, d'éduquer le politique en ce domaine. Et je crois que c'est vraiment essentiel.
Oui, je voulais... Bon. Quant, j'ai une suggestion, hein, que tous les vice-présidents du numérique fassent que le moteur de recherche par défaut sur les sites des universités soit Quant. Voilà un petit geste qui ne coûte pas très cher et qui irait dans le bon sens. Je veux revenir sur une question de droit. Il y a la grande différence entre nous, les Européens, et le reste du monde, se pose sur une question philosophique et politique, qui est la question de la propriété des données. Nous sommes dans un univers où nous gardons l'idée que les propriétés, que les données, nous n'en sommes pas propriétaires, les individus, et nous, mais on doit en avoir la maîtrise. Le monde américain, l'univers du cloud, ce numérique d'aujourd'hui qui n'a pas été celui des années 2000, est un numérique qui est l'enfant de droits de propriété radicaux, idéologiques, en France, défendus notamment par, je crois, Gaspard Koenig, qui officie à Sciences Po. C'est une catastrophe d'avoir ce genre de point de vue libertarien, radicaux, qui se dirait que notre liberté passe par les droits de propriété. Voilà, on n'est pas dans une question technique ici, on est clairement dans une question politique et juridique.
Donc de Kant à Quant, deux solutions pour le numérique, entre la philosophie et le moteur. Le numérique ou le digital est sursollicitant. Il se développerait, dit-on, une économie de l'attention par le numérique ou par le digital. Comment se gère, Franck, pour l'usager citoyen, le conflit des attentions entre une sollicitation continue versus une concentration?
Oui, c'est un ami, Alain Giffard, qui avait fait ça il y a quelques temps, en fait, en disant qu'il y a un conflit majeur aujourd'hui, qui est le conflit des attentions, à partir d'une expérience très simple. C'est un spécialiste de la lecture numérique, en fait, qui a lancé en France le premier rapport du temps de Trotman, où on avait, disons, l'esquisse, disons, d'une culture numérique, de la mise en œuvre d'une question, disons, de la culture numérique dans le champ politique, qui aujourd'hui a été largement abandonnée depuis lors, depuis Trotman, et je la salue à ce titre en tant que ministre. L'idée c'est de dire ce conflit des attentions, quand vous êtes face à un écran, en fait, vous êtes focalisé, votre regard, il est focalisé par une zone qui vous permet d'avoir accès soit à l'image, soit au texte. Et parallèlement, en fait, eh bien, il y a l'intrusion dans ce même écran, en fait, d'une publicité. Et l'idée, c'est d'avoir deux registres totalement hétérogènes sur une même page écran. En fait, c'est d'avoir une information intentionnelle que vous avez cherchée, que vous avez requêtée, etc., etc. Et de l'autre côté, une affiche d'une information qui vient de votre profiling, hein, qui vient du modèle, ce qu'on appelle double face en économie. Et donc, il y a un conflit des attentions qui est très, très net. C'est-à-dire, quand vous êtes concentré, et en fait l'intelligence suppose depuis Descartes au moins l'acte de concentration, en fait, vous passez à gauche ou à droite, c'est-à-dire en fait vous êtes sollicité par autre chose que par la chose qui était, comment dire, première dans l'ordre de la lecture. Donc la question du conflit des attentions, c'est une question de lecture et d'écriture. Et là, évidemment, je suis tout à fait d'accord sur le fait de l'éducation. Et aujourd'hui, il faudrait promouvoir une culture du lettré numérique, comme idéal de l'honnête homme du XVIIIe siècle. On avait autrefois, disons, des idéaux. C'est important, et aujourd'hui, je pense qu'on en a de moins en moins. Cet idéal du XVIIIe, de la modernité, qui accompagne d'ailleurs la citoyenneté, c'est l'honnête homme. Aujourd'hui, en fait, on pourrait avoir un idéal dans la formation du lettré du numérique. Qu'est-ce que c'est qu'un lettré du numérique ? C'est quelqu'un qui est capable de faire la connexion entre la littératie ou les littératies et la numératie. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui est capable de coder, ça a été dit tout à l'heure, de comprendre la logique de l'algorithmique, etc. etc. Donc, ça veut dire qu'il nous faut, en fait, des fondamentaux. Il nous faut des fondamentaux pour pouvoir les instancier après à travers un programme pédagogique, à travers les ESP, à travers évidemment cette révolution, disons, entre guillemets, comment dire, copernicienne ou post-copernicienne dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire où l'intelligence se forme dans une confrontation à la technologie. D'une certaine manière, comme l'intelligence se confrontait à une confrontation à la lecture et à l'écriture et à l'imprimerie qui sont des technologies historiques. Donc voilà des, à mon avis, des choses basique qu'il faut défendre. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un lettré du numérique et avoir comme idéal en fait de l'éducation, et eh bien de défendre cette figure-là. Je pense qu'on a besoin de figures. La figure du contributeur, j'en parlais tout à l'heure, et eh bien la figure du lettré du numérique, c'est une deuxième figure. Ce sont des personnages conceptuels, enfin des personnages autour desquels on peut agréger des notions et qui permettent évidemment de guider, d'orienter. Ça a été évoqué tout à l'heure dans en ouverture, la question de l'orientation. Vers quoi ? Et puis un tout petit mot, je discutais dernièrement, c'est-à-dire en fait cette semaine, même lundi à Rennes avec une juriste, et évidemment la question juridique est fondamentale, Annie Blandin, qui s'occupe du droit des télécoms, elle me disait, mais aujourd'hui, et vous allez voir, c'est assez vertigineux cette petite discussion que nous avions à table, on n'est plus dans le conflit des attentions, elle me dit, au niveau juridique, le concept, c'est avec les objets connectés, c'est le problème du conflit des intentions. Autrement dit, l'intention, c'est est-ce que quand je passe devant une publicité, cette publicité a le droit de venir vers moi, alors même que d'une certaine manière, je peux supposer que le sujet, consommateur que je suis, en fait, aurait l'intention de voir ce message, parce que tout simplement, j'aime tel type de produit dans mon profiling. Elle me dit, mais le concept fondamental aujourd'hui qu'il faut discuter dans la sphère juridique, c'est un concept philosophique, c'est le concept d'intention, d'intentionnalité. Donc, en fait, on est bien obligé de réviser les concepts fondamentaux de conscience, de sujet, pour essayer ensuite, évidemment, de les confronter à ce qui nous arrive, c'est-à-dire, en fait, des médiations avec des données, des big data qui arrivent dans tous les sens, des statistiques, des algos qui instrumentalise en fait nos comportements.
Christophe, économie de l'attention ou économie de l'intention, des intentions ?
Je vais assez rejoindre l'intention. Ben juste sur cette question de la figure, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qu'il faut mentionner, c'est Simon Don, son rapport à la technique, le pont entre l'homme et le monde, voilà, et naturellement mettre en valeur toute cette idée de technophanie. Il faut ouvrir les boîtes noires, il faut refuser qu'un Apple vende des téléphones que l'on ne peut pas démonter, il faut réinventer cette culture technique qui existait dans le monde ouvrier, qui dans le monde des employés disparaît, une informatique consumériste, strictement utilitariste. Sur l'attention, oui, bien sûr, parce que l'attention, on est dans un monde de consommation, il y a une bataille du signal et de la captation, il y a des dérives qui peuvent être réglées juridiquement assez facilement, notamment la confusion des contenus publicitaires et des contenus plus proprement rédactionnels, hein, mais que les journalistes même, plutôt les groupes de journaux entretiennent, regardez attentivement Outbrain dans le monde, hein, le monde c'est la moitié maintenant de publicité, le monde digital et le reste. Bon, c'est une chose. Alors, l'attention, elle est encouragée aussi par une société qui favorise l'immédiat. Le mot-clé aujourd'hui des plateformes, c'est on-demand, d'avoir tout à la demande, de réagir à cet immédiat. Et là, il y a peut-être une question à se poser sur les perspectives qui nous sont données. Effectivement, quand les dirigeants d'entreprise, quand les hommes politiques, disons, acceptent ou se résignent à ne voir de long terme que dans un horizon de 5 ou 6 mois et sont incapables de dessiner un futur, ça ne peut qu'encourager une attention vers l'immédiat, la gratification immédiate contre des gratifications lointaines comme président d'université, il faudrait faire l'éloge de la course à pied et de l'endurance. Ça, c'est une chose. Je vais rejoindre mon collègue de droite sur un autre aspect. Ça, je dirais, c'est une question assez classique, assez simple. Il y a beaucoup plus important, sans doute, aujourd'hui, c'est de regarder le renversement qui est fait. Le monde des plateformes, moi, j'appelle ça le monde des plateformes, hein, ça ne se limite pas aux réseaux sociaux, est en train d'opérer un renversement quand même assez important. On raisonne avec des catégories qui sont peut-être pas tout à fait adéquates, par exemple celle de consommateurs. Aujourd'hui, pour Facebook, les utilisateurs de Facebook ne sont pas des consommateurs. Ils sont des producteurs. Le consommateur, l'utilisateur, c'est l'acheteur d'espace publicitaire. Cet acheteur, il achète une attention en partie, mais pas seulement, il achète beaucoup plus. Il achète son prix, il est fixé en termes de niveau d'engagement. Toute l'activité aujourd'hui de Facebook est orientée vers une chose, comment empêcher la diminution, c'est le fait empirique, de l'activité sur la plateforme. Depuis 2005 que plateforme existe, les gens sont beaucoup moins actifs, parlent de moins en moins d'eux-mêmes, ils ont appris, ils ont intégré ces problématiques de privacy, ils savent beaucoup mieux utiliser les boutons de confidentialité, notamment les plus jeunes, et ont tendance à mettre des contenus d'une vacuité totale de manière délibérée, des chats, des chiens et des bébés. Voilà. Et ça, c'est un problème pour Facebook. Et Facebook fait un certain nombre d'expériences de manière continue, massive, pour voir comment on peut augmenter un taux d'engagement qui est de l'ordre à peu près de 0,05%. C'est la moyenne du taux de clic qu'on a dans le monde publicitaire. C'est extrêmement faible, extrêmement faible. Et donc on les considère comme finalement des travailleurs non rémunérés, ce que mon collègue Antonio Casilli développe au travers de la notion de digital labor. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Alors effectivement, là il y a une intrusion, c'est au-delà d'une intrusion, il y a une interférence dans nos libertés. Et une interférence, pour le dire en termes néo-républicains, qui est clairement non justifiée.
Très bien. Qui plus est, sans augmenter le nombre de ventes de colliers pour chats, manifestement. Donc rassurez-vous, nous organisons juste après la table ronde un atelier démontage d'iPhone qui permettra d'en connaître un peu davantage sur les dispositifs. On l'a évoqué tout à l'heure, comment le citoyen prend-il conscience de ces enjeux, notamment économiques, du numérique ? Comment parvient-il, pour reprendre Kant, pas le moteur mais l'autre, à l'âge de la majorité face au numérique et à la protection des données ? Et comment d'ailleurs éduquer les jeunes, comme nous, ou les moins jeunes, à la protection de leurs données personnelles ? Sophie ?
Oui, alors, donc, à la fois au niveau de la CNIL et puis plus globalement au niveau du collectif que la CNIL a initié, elle a initié un collectif d'une soixantaine d'acteurs, qui intègre et réunit aussi bien la conférence des présidents d'université que des fédérations professionnelles, fédérations de parents d'élèves, organismes gravitant dans le monde de l'AI et éducation. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours de lancement ou qui ont été lancées. Je voudrais notamment évoquer une initiative tout à fait récente qui a été prise au plan international par l'ensemble des autorités de protection des données, qui est en fait l'élaboration d'un référentiel de formation des élèves à la protection des données, parce que aujourd'hui ce qu'on constate, même si ici ou là il y a des ressources pédagogiques qui existent dans ce domaine, il existe quand même un manque assez flagrant d'acculturation sur ces aspects, donc notamment dans les programmes scolaires et également au niveau de la formation des enseignants, des formateurs. Donc c'est la raison pour laquelle on a adopté ce référentiel international qui se décline pas uniquement, je dirais, en termes juridiques, protection des données. Justement, il y a eu un souci d'englober à la fois la connaissance du contexte économique que j'évoquais tout à l'heure, donc avoir une bonne connaissance des modèles d'affaires du numérique, une connaissance aussi technique. On évoquait tout à l'heure apprendre à coder. C'est très bien d'apprendre à coder, mais encore une fois, ça doit se situer dans le cadre d'une culture générale du numérique, une culture citoyenne. Et donc, focaliser uniquement sur l'apprendre à coder nous semble un leurre. Donc avoir une vision globale, une culture générale du numérique, c'est vraiment ce qu'on tend à promouvoir dans le cadre de ce référentiel. Donc ça, c'est une première démarche qui a été lancée et on en saisit le ministère de l'Éducation nationale avec lequel on a une convention de partenariat qui nous a conduit, je dirais, à contribuer, et c'est en cours, à l'élaboration de parcours de formation des enseignants, ce qu'on appelle les parcours magistères, et au-delà de ça, à réaliser des interventions en académie pour concrètement sensibiliser les enseignants et les référents numériques aux aspects de protection des données. Donc ça, c'est vraiment un aspect essentiel. Et au-delà de ça, il y a une initiative aussi dont je voudrais parler en deux mots.
J'allais vous interroger sur le challenge. Oui.
Voilà, sur les trophées du CNUM, qui peut paraître une action minime, mais qui me paraît tout à fait significative, peut-être d'une voie intéressante à creuser. C'est l'idée de, on en est à la troisième édition, de proposer en fait aux étudiants, avec leurs enseignants, d'élaborer, de concevoir des ressources pédagogiques sur les questions donc, de respect de la vie privée sur le net à l'intention des plus jeunes. On voit qu'aujourd'hui, le numérique effectivement pénètre je dirais la vie des enfants dès le plus jeune âge, et l'idée c'est que finalement dans le cadre d'un dialogue finalement entre générations et plus jeunes, eh bien les étudiants puissent travailler sur ces ressources pédagogiques vie privée. Donc il y a un double objectif, à la fois de sensibilisation du monde des étudiants, du monde des enseignants au niveau des universités, et puis également donc de diffuser des ressources pédagogiques. Donc là, j'ai un certain nombre de flyers. Donc c'est intéressant. Troisième édition, comme je l'indiquais. Chaque année, on a une centaine de projets qui nous sont présentés. Et je rajouterai le fait qu'il y a 10 000 euros à la clé à se partager. Donc, et c'est un projet, une action qui est soutenue par le ministère de l'Éducation nationale.
J'entends dans ce que vous dites aussi l'importance du dialogue intergénérationnel dans l'éducation au numérique. André.
Je voudrais compléter là. Donc je pense, une démocratie, la vie privée, on n'en a pas assez conscience. La vie privée, c'est une condition de la démocratie. Et les totalitarismes mélangent les deux, vie publique, vie privée, ça, c'est complètement mélangé. Donc le combat de la CNIL est tout à fait légitime, etc. Le problème, c'est que la CNIL n'a pas les pouvoirs qu'elle a eus au départ. Et on est dans une période aussi difficile où la lutte contre le terrorisme a l'air de justifier pas mal d'accro, par rapport à ça. Et alors, je vais vous donner un exemple. L'histoire est très importante. Comme vous le savez, en 1974, on voulait créer un système qui s'appelait Safari. C'était d'automatiser le numéro INSEE pour en faire la clé de tous les fichiers. Il y a eu une réaction terrible qui a donné naissance à la CNIL. Là, au moment de Pâques, il y a un décret qui est paru, qui crée un fichier biométrique de tous les Français, 60 millions de Français. Depuis au moins 10 ans, les gouvernements aussi bien de droite que de gauche ont voulu créer ce fichier biométrique. Pourquoi ? Parce que les Américains, suite aux attentats du 11 septembre, ont estimé que la biométrie, c'est l'identifiant le plus universel. Et donc, pour au niveau des frontières, etc. Donc, tous les gouvernements ont essayé, j'en ai fait l'histoire, et enfin, on a ce fichier qui vient d'être créé. On a été quelques personnalités, disons, qui ont œuvré pas mal de temps sur le problème informatique et liberté. On a fait une pétition qui n'a pas été acceptée par Le Monde, elle est parue dans Libération. Et pour le moment, aucune réaction, en fait. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a deux conjonctures politiques. La conjoncture des années mi-80, et puis la conjoncture actuelle. Et donc, en termes d'informatique et liberté, de protection des données personnelles, donc la situation a totalement changé. Et c'est là, sans être alarmiste, etc., ben là, on est devant ça, on a ce gros fichier biométrique des Français, où vous avez l'adresse, vous avez donc les empreintes digitales, etc. Et pour le moment, on est quelques-uns à avoir réagi, mais apparemment, notre réaction...
je m'y lancerai.
Oui, la CNIL a réagi, mais elle n'a pas été écoutée, voilà.
Enfin, d'une part, il y a effectivement la CNIL a réagi puisqu'on en a été saisi. Bon, il y a entre guillemets ce mini débat parlementaire, mais faut aussi dire globalement que l'opinion publique, elle est malheureusement assez peu sensibilisée sur les sujets privacy, etc. Peut-être d'ailleurs à la différence, paradoxalement, aux États-Unis, je dirais que les associations sont parfois beaucoup plus actives qu'en France. Hein, donc c'est aussi un aspect à prendre en compte.
Franck.
Oui, sur les... l'idée de la culture digitale comme étant en fait le socle de la création du concept de lettré du digital, en fait, c'est ça l'idée. Faire un référentiel, c'est important, c'est très très important, et je pense que la conférence des présidents de diversité devrait se poser la question de faire un référentiel de cette culture digitale qui n'est pas faite par le ministère de la culture et qui à ma connaissance est assez peu développée dans le ministère de l'éducation, tout simplement parce qu'on est techno-push, quoi. C'est-à-dire en fait on commence par envoyer des tablettes et après on voit ce que ça donne. L'idée, je crois que la distinction elle est entre épi digital et méta-digital. C'est Sylvain Auroux qui dit une chose assez évidente: épi-linguistique, méta-linguistique. J'ai appris le français en fait sans jamais l'apprendre, c'est épilinguistique. Par contre, évidemment, j'ai appris, donc j'ai des compétences en français. Par contre, j'ai pas toutes les compétences et les connaissances du français, parce que les connaissances du français, c'est le méta-linguistique, c'est-à-dire en fait l'école primaire. Je suis obligé d'apprendre l'engrammation des lettres et l'apprentissage d'écriture et lecture. Et il me semble que là, on a quelque chose de très très profond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en culture digitale, l'épi-digital, il est en avance sur le méta-digital. Autrement dit, les savoir-faire et les compétences en fait, des jeunes sont en avance, mais ce ne sont pas des connaissances. Et donc là, il y a quand même à se méfier de la terminologie. Quand on fait l'apologie des compétences aujourd'hui sur le plan des catégories qu'on utilise, probablement qu'on confond compétences et connaissances. Et que là, il y a une sorte de moment radical où on est dans l'après-coup des compétences d'une culture digitale qui nous arrive par le marché, hein, qui nous arrive d'ailleurs par... J'ai eu une discussion avec un ami économiste, il me dit qu'il y a une chose qui est assez extraordinaire. C'est quoi ? C'est l'idée du monopole naturel. L'idée d'une monopole naturelle. Facebook devient de facto pour un économiste un monopole naturel alors qu'on est sur une technologie hyper pointue. Et que l'idée de monopole naturel, c'est qu'on ne peut pas s'en défaire. Et la question des effets de réseau, je ne rentre pas dans les détails, elle est liée avec cette non-politique dont on parlait tout à l'heure. Donc si on revient à l'aspect positif, construire un référentiel d'une culture digitale, faire de manière très sérieuse la distinction entre épidigital et métadigital, construire évidemment des catégories qui sont liées au système cognitif, à l'environnement technologique, à l'environnement politique, à l'environnement juridique, etc., etc. Tout ça, c'est des choses à construire pour essayer évidemment de développer cette figure du lettré digital qui est véritablement à construire. Et je terminerai en disant que moi j'avais été auditionné par le Conseil supérieur du numérique en disant mais comment ça peut se faire cette affaire ? Eh bien, ça peut se faire aussi en top-down, pour une fois, pas en bottom-up. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un rôle fondamental, à mon avis, des écoles doctorales à jouer là-dedans. Parce que les écoles doctorales, quand on forme des docteurs, donc des gens qui vont produire de la connaissance, il faudrait en fait aussi les familiariser avec, cette connaissance du méta-digital et pas simplement du, épi-digital. Ce qui ne veut pas dire, en fait, que l'URFIS ne fait pas son travail, parce qu'ils font leur travail. C'est considéré comme la documentation ou l'information. Mais en fait, on n'est pas, c'est pas intégré dans une dynamique de la culture. Et cette dynamique de la culture, elle doit être promue par les ministères. C'est une politique publique. Et moi, j'oserais le mot une politique néo-républicaine, pour reprendre le mot de mon voisin.
Beau mot pour terminer cette table ronde. Donc, ce que vous dessinez là, c'est un programme de littératie digitale. Christophe ?
littératie digitale, oui, bien sûr, évidemment, ça doit être une priorité, à la fois en termes de recherche. Les consommateurs, et je suis d'accord, n'attendent pas qu'on les conseille en la matière. Hein. 250 millions d'adblockers ont été installés. Le bouton Facebook a 15 significations.
Oui, mais les adblockers favorisaient la publicité aussi, ils orientaient le ciblage de la publicité.
Les consommateurs, si comme bricolent, comme le disait Michel de Certeau, ils bricolent aussi massivement que les grandes plateformes. C'est nous qui sommes un peu en retard. Voilà. Le bouton Facebook, 15 ou 20 significations différentes, ce qui ruine complètement la qualité métrologique pour Facebook et donc pour la valorisation publicitaire, on le réalise. Facebook a réagi en ajoutant des émoticônes pour nuancer, c'est sa réponse. Donc on est dans un monde complètement adversial où chacun des versants du marché, pour être très clair, réagit à ce que fait l'autre dans une invention permanente et où entre les deux, je dirais, nos États ou nos structures politiques restent inertes et les yeux abasourdis, enfin écarquillés. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais pas de
vous
beaucoup.
Vous êtes négatif.
Voilà, donc c'est on voilà vive la créativité. Je vais reprendre le fil de mon voisin. Oui, je suis d'accord. Oui, un État néo-républicain. Et s'il y avait une mesure à prendre, je pense que la mesure, elle doit être d'ordre politique. Aujourd'hui, si on doit considérer les grandes plateformes comme agissant comme des organismes politiques, il va falloir prendre le pouvoir dans ces plateformes et clairement réfléchir à des idées qui sont celles de Shore, de coopérativisme de plateforme, des idées qui sont anciennes, qui existent dans les modèles d'entreprise allemands, qui sont ceux de la cogestion. Mon collègue Olivier Favreau travaille et défend cette idée de codétermination. Je rêve qu'au conseil d'administration des grandes plateformes, il y ait des places réservées aux utilisateurs, aux contributeurs et à l'ensemble des parties prenantes qui y soient. L'important n'est pas de réguler les algorithmes ou la vie privée, bien sûr, en partie. L'important, c'est que de manière directe, on puisse avoir un droit de regard. Je dirais, c'est un élément en plus.
André ? Oui. André, sur cette littératie numérique et la possibilité d'une place au conseil d'administration d'une plateforme.
Et le problème, c'est qu'on est, en quelque sorte, on est à un moment, ma voisine disait ça aussi, on est dans un moment de crise qui fait que les questions deviennent particulièrement urgentes. Et le problème, l'Europe se réveille un peu, il va y avoir un nouveau règlement, etc. Mais on s'est laissé complètement l'économie libérale. Les Chinois, par exemple, même s'ils organisent une tyrannie. Mais les Chinois ne se sont pas laissés déborder, les Russes beaucoup moins, tandis que l'Europe occidentale est complètement débordée par ce que vous appelez les plateformes. Bon, évidemment, il y a quelques... Oui ? Oui. Bon, et donc, effectivement, moi je suis d'accord, la réponse doit être... Le problème, il y a une économie des réseaux qui fait que le monopole est presque indestructible. C'est ça le problème. Et que si vous voulez utiliser un autre moteur de recherche que Google, il est moins efficace. Pourquoi ? Parce que Google a plus de clients. Comme vous disiez, c'est des sortes de, on est des usagers producteurs. Et donc le problème, là, il faut savoir, on est dans un moment, à mon avis, très délicat au niveau numérique. Alors au niveau éducation, à mon avis, ça doit suivre, certes. Alors moi, on avait créé à l'époque de la loi informatique et liberté une association qui s'appelle le CRES, un peu avec nos propres moyens. Ça continue. Depuis plus de 25 ans.
Avec une revue qui s'appelle Terminal.
On n'a eu aucun moyen officiel. Et là, on a, ça, ce qui nous a donné la légitimité, c'est qu'au moment de la loi informatique et liberté, au niveau éducatif, il y avait M. Tricot à l'époque, qui était un collaborateur du général de Gaulle, qui avait dit qu'il faut que l'éducation à l'informatique ne soit pas qu'une éducation technicienne. Et il faut mettre les élèves par rapport aux enjeux sociaux, économiques, etc. Et donc, cette éducation, on a fait cette association à ce moment-là, qui continue, mais peut-être, enfin là j'ai perdu ça un peu de vue, au niveau des programmes, on a peut-être laissé un peu tomber cet accompagnement citoyen, justement. Non, bon, oui, la CNIL essaie de faire des choses, je suis d'accord, et on participe. Non ?
Sophie, pour conclure.
On participe avec vous, d'ailleurs, sur ça, parce que donc, cette association, effectivement, continue. Et alors c'est intéressant, parce qu'on n'a eu aucun moyen officiel, Aucun moyen. Aucun président d'université n'est jamais venu à nos réunions, etc. Mais ça continue, ça continue. On a édité une revue qui s'appelle Terminal, qui existe depuis 25 ans.
Qui rassemble des travaux à la fois de chercheurs et d'acteurs du numérique. Sophie, un dernier mot sur cette question-là.
J'ai un peu l'impression qu'on part battu. Enfin, je trouve que ça donne un peu cette impression. Il y a effectivement un peu une partie de bras de fer qui se joue actuellement. Je crois que l'Europe, elle a vraiment son rôle à jouer, à la fois du point de vue juridique, politique, même si aujourd'hui on peut considérer qu'il n'y a pas véritablement une volonté politique. Mais encore une fois, c'est une question d'éducation du corpus politique là-dessus. Donc, par rapport aux questions aussi de souveraineté numérique, etc., bon, on jette le haro sur les plateformes, notamment américaines, etc. Alors, il y a aussi effectivement des alternatives, comme on voit en Russie, où ils cherchent à développer leur propre système d'exploitation, etc. Il y a du pour et du contre, hein, parce que le régime politique aussi en Russie, ce n'est pas non plus la panacée. Et avoir un système d'exploitation qui est aux mains totales d'un État, c'est, je veux dire, du point de vue emprise sur la population, ce n'est pas évident. Tu t'évoquais tout à l'heure ce qui se passe aussi en Chine, ce n'est pas non plus évident. Donc, les États-Unis, c'est quand même, c'est un pays qui reste, quoi qu'on en dise, démocratique. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, j'entends bien. Donc c'est pour ça qu'il faut, je crois, avoir une vision, je dirais, un peu nuancée de tout.
Merci beaucoup. On va en terminer. Franck a un mot extrêmement court avant l'atelier.
Non, mais l'idée, c'est de défendre. Je vous laisserai la remarque de l'Amérique comme un pays démocratique, parce que là, ça supposerait une discussion, et je pense que c'est vraiment à discuter. Je pense que l'Europe pourrait être démocratique.
La question,
c'est de construire en fait un référentiel. Moi, j'aime bien le référentiel. Il y a une bataille du droit, et que ça se fait autour des référentiels de la culture digitale. Qu'il faut des concepts. Le concept du lettré du numérique me semble très très important. Il faut le faire monter. Il faut que ça soit, très très inscrit dans des écoles doctorales, qu'il y ait des programmes en fait de formation des jeunes docteurs.
On va fixer ça comme programme pour la journée.
C'est l'idée de fixer un cap, voilà, et pour savoir un peu où on va. Merci.
Merci beaucoup. Merci à chacun et merci à tous.